Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Ceux qui entrent et ceux qui sont grands dans le royaume. Versets 1 à 5.
Lecture de la parole. En cette heure-là, les disciples vinrent à Jésus, disant, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus, ayant appelé auprès de lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'abaissera comme ce petit-enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit un seul petit-enfant tel que celui-ci en mon nom me reçoit. »
Lecture de l'étude. Au commencement de ce chapitre, nous trouvons les disciples préoccupés de la grandeur de ceux qui seront dans le royaume des cieux. Ils ne doutent nullement qu'ils en feront partie, d'autant plus que le Seigneur venait de montrer à Pierre dans quelle haute position il le plaçait avec lui. Les disciples, comme tous les Juifs, n'avaient à l'égard du royaume que des pensées de gloire et de grandeur charnelle, malgré l'abaissement dans lequel le roi, le Messie, était venu. Aussi le Seigneur leur enseigne ce qui doit caractériser ceux qui lui appartiendront avant son établissement en gloire. En réponse à la question des disciples, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux, Jésus appelle auprès de lui un petit enfant, le place au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Aux yeux des disciples, la qualité de juif, de descendant d'Abraham, paraissait suffisante pour un sujet du royaume. Elle ne l'était pas aux yeux de Dieu. Tout juif était pécheur, et, quoique le peuple possédât des promesses, il fallait non seulement descendre d'Abraham, mais avant tout naître de nouveau, se convertir, changement complet produit par la réception d'une nouvelle nature, grâce à la foi au Seigneur Jésus mort sur la croix. Le caractère de ceux qui sont convertis et qui, par conséquent, font partie du royaume des cieux, est celui d'un petit enfant. Il faut devenir comme les petits-enfants. Combien les pensées de Dieu sont opposées à celles des hommes. Pour entrer dans la société et être quelque chose ici-bas, il faut en avoir fini avec le caractère des petits-enfants. Tous les enfants souhaitent le moment où on ne les traitera plus comme des enfants, et surtout comme de petits-enfants, estimant que les adultes jouissent de nombre d'avantages dont ils sont privés. Ces pensées-là sont en rapport avec les choses de la terre, avec la gloire du monde qui n'est que vanité. Quant aux choses de Dieu, pour le royaume, pour l'éternité de gloire, il en va tout autrement. Car Dieu ne peut tolérer l'élévation et la grandeur de l'homme pécheur au milieu d'un monde ruiné. « Je hais l'orgueil et la hauteur, dit la sagesse. » Proverbe 8, verset 13.
La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. « Je hais l'orgueil et la hauteur, et la voix d'iniquité et la bouche perverse. »
Ésaïe 2, verset 11 à 17.
« Les yeux hautains de l'homme seront abaissés, et la hauteur des hommes sera humiliée, et l'Éternel seul sera haut élevé en ce jour-là. Car il y a un jour de l'Éternel des armées contre tout ce qui s'exalte et s'élève, et contre tout ce qui est haut, et ils seront abaissés, et contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bazan, et contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, et contre toute haute tour, et contre toute muraille forte, et contre tous les navires de Tarsis, et contre tous les objets d'art agréables, et la hauteur de l'homme sera humiliée, et l'élévation des hommes sera abaissée, et l'Éternel seul sera haut élevé en ce jour-là. »
Ainsi, pour entrer dans le royaume des cieux et jouir des bénédictions présentes et éternelles, il faut la conversion, car Dieu ne peut recevoir un homme dans son état naturel. Il faut devenir comme les petits-enfants, c'est-à-dire renoncer à toute prétention, croire ce que Dieu dit, avoir plus de confiance en ce qu'il dit que dans son propre jugement. Au lieu de chercher à devenir grand selon le monde, il faut au contraire devenir humble. N'est-ce pas ce que le Seigneur a fait, lui qui était de toute éternité dans la gloire, Lui qui a créé toute chose, qui est et était Dieu, il s'est anéanti en devenant un homme, prenant la forme d'esclave, et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, tout cela pour nous introduire dans son royaume, dans le ciel même. Philippiens 2, versets 5 à 11.
Il y a donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Le caractère de ceux qui sont au Seigneur doit donc être celui de leur Sauveur et Seigneur pendant le temps de son rejet, où le monde méconnaît ceux qui croient en lui. La gloire viendra ensuite. Après avoir montré aux disciples à quelles conditions et sous quel caractère ils pouvaient entrer dans le royaume, Jésus répond proprement à leurs questions. Qui est le plus grand dans le royaume? En disant, quiconque s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Pour entrer, il faut se convertir et devenir comme les petits enfants. Une fois introduit, pour y être grand, il faut encore s'abaisser comme un petit enfant. Dans un monde caractérisé par l'orgueil de l'homme et ses prétentions, l'humilité, l'abaissement constituent le chemin de la gloire selon Dieu. C'est ce que nous voyons pour le Seigneur dans les versets de Philippiens 2 cités plus haut. Christ s'est abaissé lui-même au plus bas jusque dans la mort. C'est pourquoi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Tous ceux qui veulent être élevés dans la gloire future doivent suivre Christ, le parfait modèle, ici-bas, dans l'abaissement, l'humilité, la douceur, acceptant de n'être rien et d'être tenu pour tel, ne voulant pas autre chose que la position qu'il a eue dans ce monde. Ces caractères des siens, le Seigneur se plaît à les trouver dans le petit enfant. Ils ont beaucoup de prix pour son cœur, ainsi que tous ceux qui les portent. Ils ont beau n'avoir pas de valeur pour les hommes. Si l'on reçoit un seul de ces petits au nom du Seigneur, on le reçoit lui-même. Quelle gloire d'avoir ici-bas l'occasion de recevoir le Seigneur. Les résultats en seront glorieux et éternels, au jour où tout ce que Dieu apprécie sera manifesté. Voyez Matthieu 10, versets 40-42.
Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense d'un juste. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, en qualité de disciple, en vérité je vous dis, il ne perdra point sa récompense.
Et Matthieu 25, versets 31 à 40.
Or quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres. Et il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais infirme et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus auprès de moi. » Alors les justes lui répondront, disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu infirme ou en prison et que nous sommes venus auprès de toi? » Et le roi répondant leur dira, « En vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. »
Les occasions de chute. versets 6 à 10.
Lecture de la parole. Et quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu au cou une meule d'âne et qu'il eût été noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute, mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropié que d'avoir deux mains ou deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que, dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux.
Lecture de l'étude. Les enfants qui croient au Seigneur ont d'une telle valeur pour son cœur qu'ils prononcent le jugement le plus sévère sur quiconque leur est une occasion de chute ou de scandale. Il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu au cou une meule d'âne et qu'il eût été noyé dans les profondeurs de la mer. Depuis que Jésus a prononcé ces paroles, jamais plus que de nos jours on a autant cherché à scandaliser les petits qui croient au Seigneur, et en général tous les croyants, en essayant de prouver par d'habiles raisonnements humains que la Bible n'est pas la parole de Dieu ou qu'elle ne l'est pas entièrement, que Jésus n'était pas le Fils de Dieu ou qu'il n'a pas existé, qu'il ne faut croire que ce que l'on comprend, etc. On cherche à user de l'influence que peuvent avoir sur les croyants, petits et grands, la science et la raison humaine pour les détourner de la foi. Scandaliser, dans le Nouveau Testament, n'a pas le sens de choquer qui l'a prise en français, mais signifie faire un faux pas, donc faire tomber, en détournant de Dieu, en donnant à croire que ce que Dieu dit est faux, par d'autres moyens encore. Gardons-nous tous de prêter l'oreille à de tels raisonnements. Il ne s'agit pas de comprendre premièrement, mais de croire ce que Dieu dit. Cela suffit. En le croyant, nous possédons le pardon de nos péchés, la paix avec Dieu, la jouissance de son amour et, pour l'éternité, une place dans la gloire lorsque toute la grandeur de ce monde sera anéantie. Quant à ceux qui n'auront pas cru Dieu, qui auront causé la chute d'un petit qui a mis sa confiance dans le Seigneur, qui auront préféré leurs connaissances et leurs croyances à la parole de Dieu, qui auront donné gloire à l'homme plutôt qu'à Dieu, les méchants en un mot, ils seront éternellement en dehors de la vie, du bonheur et de la gloire que la parole de Dieu donne et promet à ceux qui croient. Ils auront pour leur part les tourments éternels, la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Apocalypse 14, verset 11. Le Seigneur met aussi en garde contre les choses qui peuvent être une occasion de chute, contre tout ce qui fait péché et prive de la vie éternelle. La main peut occasionner le péché en accomplissant des choses mauvaises. Le pied peut conduire dans des lieux où l'on est détourné de la vérité et où le mal peut se perpétrer. L'œil est l'organe par lequel les convoitises de tout genre sont introduites et entretenues dans le cœur. Si ces membres, ou l'un ou l'autre, induisent au péché, si on ne sait comment cesser de les employer pour faire le mal, ce qui peut priver du salut, mieux vaut les couper, c'est-à-dire renoncer absolument à tout ce qu'ils nous procurent. « Jette-les loin de toi, dit le Seigneur, au figuré, à une grande distance, afin de ne pas les avoir sous la main lorsque le cœur les désire, et de ne pas s'exposer au péché qui privera de la vie éternelle, car les gages du péché c'est la mort, et après la mort le jugement. C'est tout jeune qu'il faut pratiquer ces opérations-là, en ne cultivant pas des penchants naturels qui peuvent dégénérer en passion, on risque d'en devenir les esclaves, et d'être entraîné par ces affreux tyrans dans le feu éternel. Que le Seigneur donne à chacun d'examiner contre quoi il a à lutter, la jeunesse tout particulièrement, qui est responsable d'écouter les enseignements de parents pieux et de tous ceux qui s'intéressent à elle selon Dieu. La valeur d'un seul petit enfant, versets 10 à 14.
Lecture de la parole. Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que, dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité je vous dis qu'il a plus de joie de celle-là que des 99 qui ne se sont pas égarées. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périsse.
Lecture de l'étude. Les petits enfants ont un tel prix pour le Seigneur qu'il dit « Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits ». Il faut avoir pour eux les pensées du Père à leur égard, et non celles des hommes, qui font plus de cas d'un grand du monde que d'un petit enfant. Ici, il ne s'agit pas de ceux qui croient seulement, mais de tous les petits enfants, quels qu'ils soient. Comment estimer le prix qu'un petit enfant a pour Dieu? Le verset 11 le dit, « Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu ». Un objet a toujours une valeur égale au prix payé pour l'acquérir. Le prix donné pour le salut d'un seul petit enfant n'est rien moins que le Fils de l'homme venu ici-bas pour les sauver. Ce cher Sauveur donne à l'égard d'un petit enfant, dont l'existence n'a duré peut-être que quelques instants, le même exemple de dévouement que dans la parabole du bon berger, Luc 15. Le berger abandonne tout le troupeau pour venir sauver un de ses petits. Il a de la joie de l'avoir sauvé. Car ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ses petits périsse. En général, lorsqu'on apprend la mort d'un petit enfant, on se sent moins ému que s'il s'agit de celle d'un grand homme, surtout si cet enfant appartient à une famille pauvre. On ne lui prépare pas de pompeuses funérailles. Et pourtant, ce grand homme peut être un incrédule, mort dans ses péchés parce qu'il a méprisé la grâce. Il n'y a eu pour lui aucune joie dans le ciel, tandis que ce petit enfant est un éternel sujet de bonheur pour celui qui vint ici-bas pour le sauver. Nos pensées doivent être à cet égard comme en tout celles du Seigneur. Ne méprisons pas le petit enfant, car nous savons que tous ceux qui meurent en bas âge sont auprès du Seigneur. Il s'est donné pour eux, accomplissant la volonté de son Père qui ne veut pas qu'un seul de ses petits périsse. Au ciel, ils sont dans sa présence. Leurs anges, dit le Seigneur, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. On a dit à ce propos, si les petits-enfants ne savent pas s'ouvrir leur chemin dans ce monde, ils sont néanmoins l'objet de la faveur spéciale du Père, comme ceux qui, dans les cours terrestres, avaient le privilège particulier de voir la face du roi. D'après les enseignements du Seigneur dans tout ce qui précède, la petitesse, l'humilité doivent caractériser ceux qui appartiennent au royaume, ainsi que la grâce manifestée dans la personne de Jésus. Comment régler les torts entre frères, versets 15 à 17.
Lecture de la parole. Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou de trois témoins toute parole soit établie. Et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain.
Lecture de l'étude. Les caractères de grâce et d'humilité doivent aussi régler notre conduite vis-à-vis de celui qui peut avoir fait tort à son frère. Au lieu de nous justifier et de divulguer le mal qu'il peut avoir fait, nous devons avoir en vue son bien, garder la chose entre nous et lui, et aller, dans l'amour, chercher à le gagner en ayant surtout à cœur de lui montrer combien il s'est fait tort à lui-même en péchant, plutôt que de lui faire comprendre combien il nous a fait tort, ce que l'on peut exagérer facilement. Si cette démarche fraternelle n'aboutit pas, il faut, sans ébruiter la chose, retourner vers lui avec une ou deux personnes, afin que tout se passe en présence de témoins, et que les faits ne soient pas dénaturés. S'il ne veut pas écouter les témoins, il faut le dire à l'assemblée, et s'il ne veut pas écouter l'assemblée, c'est inutile d'aller plus loin. le frère qui a péché peut être considéré comme un homme des nations avec lequel on n'a rien à faire. Mais si l'on agit dans le premier cas selon l'enseignement donné, il est bien rare que l'on ait besoin du second moyen et encore moins du troisième. Souvenons-nous tous de l'esprit qu'il faut apporter envers ceux qui ont manqué à notre égard. Soyons pénétrés du caractère de grâce de notre Père. Cherchons en premier lieu le bien du coupable. N'ayons aucun désir de lui faire subir un châtiment et n'agissons pas en vue de nous faire rendre justice. C'est Dieu qui justifie. De cette manière, la grâce touchera le cœur et le bien résultera pour les deux parties. Il est bon de pratiquer cela dès le jeune âge, car, si l'on s'habitue à pardonner, on le fait plus facilement dans toute sa carrière. Élève le jeune garçon selon la règle de sa voix, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Proverbe 22, verset 6. Je suis là au milieu d'eux. Verset 18-20.
Lecture de la parole. En vérité, je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
Lecture de l'étude. Le Seigneur enseigne que, si le frère en faute ne veut pas écouter l'assemblée, il n'y a plus de démarches à faire. On peut se demander pourquoi on ne peut pas recourir à d'autres moyens qui seraient plus efficaces. C'est parce qu'il n'en existe pas, si les choses se sont passées dans l'ordre enseigné de Dieu. L'assemblée se compose des croyants réunis au nom du Seigneur, car il dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, ou à mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Jusqu'à la mort du Seigneur, l'assemblée était le peuple d'Israël qui avait pour centre, dans son état normal, le temple de Jérusalem dont l'Éternel avait fait sa demeure. Depuis que le peuple a rejeté l'Éternel dans la personne de Christ et que, comme peuple, il a été rejeté lui-même, c'est Jésus qui est le centre de rassemblement de tous ceux qui l'ont reçu. Ainsi l'assemblée chrétienne, groupée autour de Jésus, a remplacé l'assemblée d'Israël qui avait pour centre le temple de l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur, en parlant de l'ordre de choses introduit par son rejet, mentionne l'assemblée chrétienne comme le lieu où il se trouve lui-même. Cette assemblée ne se composa-t-elle que de deux ou trois personnes. Il n'y a donc rien de plus grand sur la terre, parce que sa présence est là et non ailleurs, et si l'on n'écoute pas cette assemblée où se trouve le Seigneur, on ne peut aller ailleurs pour avoir sa présence. Puisque lui, qui est dans le ciel, se trouve au milieu des deux ou trois rassemblés en son nom, il dit « En vérité, je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » L'autorité du Seigneur se trouve là. C'est la seule autorité ecclésiastique que Dieu reconnaisse sur la terre et que le croyant est à reconnaître. Pour que la présence du Seigneur caractérise une assemblée de croyants, il faut naturellement qu'elle lui soit soumise à tous égards. Là encore, dans ce rassemblement des deux ou trois, d'accord, selon la pensée de Jésus pour prier, nous recevons l'assurance que, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Quel privilège béni que de pouvoir être autour du Seigneur sur cette terre en attendant d'être autour de lui dans la gloire. Rien n'est plus grand aux yeux de Dieu ici-bas. Pour les hommes, c'est peu de choses que ce rassemblement de quelques croyants autour du Seigneur, sans organisation humaine, sans ressources apparentes. Mais pour le Seigneur, rien n'a autant de valeur. Il le montre en faisant réaliser sa présence et en pourvoyant à tout. Qu'aucun de ceux qui ont eu peut-être le privilège d'être conduits dès leur tendre enfance dans ce rassemblement ne songe un instant à le quitter, car il déshonorerait le Seigneur en s'exposant aux tristes conséquences de ce mépris. L'apôtre dit « Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l'âme. Hébreux 10, verset 39. Et déjà dans les psaumes, il est dit, c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 133, verset 3. Comment pardonner? Versets 21 à 35.
Lecture de la parole. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit, « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. L'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant, « Seigneur, use de patience envers moi, et je te paierai tout. » Et le seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui, qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait, disant, « Paye, si tu dois quelque chose. » Celui donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia, disant, « Use de patience envers moi, et je te paierai. » Et il ne voulut pas, mais il s'en alla et le jeta en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Or ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés, et s'en vinrent et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, lui dit, « Méchant esclave, je t'ai remis toute cette dette, parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi ? » Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi aussi mon Père céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère.
Lecture de l'étude. Répondant à la question de Pierre qui demande « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je » Sera-ce jusqu'à 7 fois ? Le Seigneur montre qu'il faut toujours pardonner en disant « Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. 7 est le nombre parfait qui, décuplé et multiplié par lui-même, donne le nombre de fois que nous devons pardonner, c'est-à-dire autant de fois que le cas se présente. Jésus illustre ensuite son enseignement par une parabole et montre que nous devons agir les uns envers les autres, comme Dieu agit envers nous, parce que tous, nous sommes des objets de grâce. Le roi est ici Dieu qui premièrement veut compter avec ses esclaves, selon sa justice. Mais l'un d'eux, figure de nous tous, lui devait 10 000 talents, somme fabuleuse, surtout s'il s'agit d'un homme qui ne possédait rien, ces 10 000 talents représentant une somme de 6 millions pour des talents d'argent, ou de 60 millions pour des talents d'or. Voilà à quoi nous pouvons comparer la grandeur de la dette de nos péchés, nous, pauvres débiteurs insolvables. La justice du roi exigeait le paiement de la somme, mais, touché de compassion envers son esclave, il lui remit la dette. Après avoir agi de la sorte, le roi s'attendait à ce que cet esclave se comportât de même envers ses propres débiteurs. Mais à peine eut-il obtenu cette faveur qu'il rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, somme dérisoire comparée à celle qui venait de lui être acquittée, car le denier vaut moins d'un franc. Et il l'étranglait en lui disant « Paie si tu dois quelque chose ». Insensible à ses supplications, il le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût tout payé. Illustration fidèle de notre manière d'agir envers ceux qui nous ont fait tort. Oubliant l'énormité de la dette de péché qui nous a été acquittée, nous ne pouvons pardonner les torts relativement insignifiants que nous ont fait nos frères. Et si même nous disons que nous avons pardonné, nous l'oublions avec peine. Tandis que Dieu dit, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Hébreux 10, verset 17. Dans nos rapports avec nos frères, nous devons toujours nous rappeler comment Dieu agit envers nous et sentir notre absolue culpabilité devant lui. Dans son royaume, Dieu agit aussi selon son gouvernement, d'après la manière dont nous aurons traité nos frères, car toutes choses portent leurs conséquences. Les autres serviteurs, voyant ce que fit cet homme indigné, le rapportèrent au roi, qui livra ce méchant esclave au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout payé. Seigneur ajoute, ainsi aussi mon Père céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère. Cette parabole peut s'appliquer à Israël comme peuple. Il avait une dette énorme envers Dieu, consommée par le rejet de son Fils. En vertu de l'intercession de Christ sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », Dieu avait, pour ainsi dire, remis la dette à son peuple, c'est-à-dire que ses jugements ne l'avaient pas frappé tout de suite après la croix. L'Évangile, présenté aux Juifs, les invitait à se repentir. Mais tout en profitant de la miséricorde de Dieu, ils s'opposèrent à ce que cette grâce, dont ils étaient eux-mêmes les objets, fût présentée aux gentils, que représente celui qui devait s'en denier. Paul dit d'eux, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées, pour combler toujours la mesure de leurs péchés. Mais la colère est venue sur eux au dernier terme, 1 Thessaloniciens 2, verset 16. C'est ce qui arriva selon le juste gouvernement de Dieu. Le peuple fut livré au bourreau, amené par les Romains, chassé parmi les gentils, jusqu'à ce que, selon Ésaïe, il eut reçu le double pour tous ses péchés. Ésaïe 40, verset 2.
Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son temps de détresse est accompli, que son iniquité est acquittée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés.